N'ayez pas peur. Je ne vous veux pas de mal.
D'où venez-vous, madame?
Je viens du ciel.
Mais que venez-vous faire ici?
Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux.
Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel?
Oui, tu iras.
Et Jacinta?
Elle aussi.
Et Francisco?
Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets.
Et nous retrouvons Bernard et Christine Storm pour l'appel du message de Fatima. Bernard et Christine, bonjour.
Bonjour Sandra.
Bonjour Sandra et bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoureaux de Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle. »
Lucie nous confie
« Je m'adresse à ceux qui ont la foi, comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu. » Car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier, mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima, message que Dieu a voulu me confier à l'attention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu reconnue par les instances autorisées, et j'offre pour tous le sacrifice que ce travail demandera de moi.
Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoraux de la Cova d'Airia, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous pèlerins de la paix, nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi. C'est à peine si j'en avais quelque idée, une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant, tel que je l'étais à l'époque. Un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science. Et quoique plus tard j'ai vécu dans des milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture. Et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète. L'appel de l'espérance.
N'ayez pas peur. Écoutez-moi, je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu.
Mon Dieu.
Mon Dieu.
Je crois.
Je crois.
Je crois.
J'adore.
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 J'espère.
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 Et je vous aime.
Et je vous aime.
Et je vous aime.
Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon.
Je vous demande
pour
pardon.
Ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui ne croient
pas.
Qui n'adore pas,
qui n'espère pas,
qui n'espère pas,
et ne vous aime pas,
et ne vous aime pas,
vous aime pas.
Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.
Nous étions au printemps 1916, je le suppose, car étant une enfant, je ne me souciais pas des dates, je ne savais sans doute même pas quel jour nous étions. À cette époque donc, les humbles pastoureaux de Fatima se trouvaient sur l'un des versants de la colline du Cabosso, comme on l'appelle, à l'abri d'un rocher qu'on appelait Loca.
Le troisième appel que Dieu nous adresse ici par son envoyé est un appel à l'espérance. Toute notre espérance doit être mise dans le Seigneur, parce qu'il est le seul vrai Dieu, parce qu'il nous a créés avec un éternel amour et nous a rachetés en nous envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, Dieu et homme véritable, qui a souffert sa passion et qui est mort pour notre salut.
C'est ce que nous affirme l'évangile de saint Jean, quand il rapporte ces paroles de Jésus-Christ à Nicodème. « Tu es maître en Israël ?» Et ces choses-là, tu ne les saisis pas ? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que celui qui croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 10, 19.
Ce texte sacré nous dit quel doit être le motif de notre espérance. Ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que celui qui croit ait en lui la vie éternelle. Les Israélites blessés à mort et regardant le serpent dressé sur le poteau recouvraient la vie. Cela sera encore plus vrai pour nous si nous savons lever notre regard avec foi et confiance vers le Christ élevé sur le bois de la croix. Si nous savons unir à la croix du Christ notre propre croix, nos labeurs, nos fatigues, nos contrariétés, nos douleurs et nos angoisses, avec un vif regret de nos péchés et la ferme intention de ne plus les commettre. Notre confiance sera récompensée par la promesse du Christ, afin que celui qui croit ait en lui la vie éternelle.
Tu sais, Lucie, le christianisme ne se transmet plus dans nos contrées, sinon comme une culture. au même titre que Molière. Les églises deviennent des musées pour touristes. Les chiffres de toutes les enquêtes l'attestent. Le système sociétal des siècles précédents, la civilisation paroissiale, disent les sociologues, est arrivée à son terme. C'est la fin de la chrétienté, chrétienté définie comme une civilisation constituée autour et sous la houlette du christianisme, puis du catholicisme, d'un mode d'être à la fois total et cohérent, qui sous-entend la croyance religieuse, les mœurs, les lois, les lieux de pouvoir, le modèle familial, etc. Nous arrivons à la fin d'un christianisme sociologique où l'on baptise l'enfant en vue d'une fête familiale, avant de s'empresser de ne plus fréquenter la communauté dans laquelle on disait vouloir le faire entrer. La sécularisation a entraîné la disparition de ce religieux profane, de cette culture commune aux croyants et aux non-croyants. Même si l'islam semble très présent, c'est le phénomène religieux qui est en recul. La non-affiliation est devenue le régime normal. La majorité des jeunes sont aujourd'hui désaffiliés de toute religion ou non-affiliés. Ils en sont à la deuxième, voire la troisième génération de la rupture. Que faire, Lucie?
Pour que vous voyez quelle doit être notre confiance dans le Christ, je vous rappelle la traversée du lac par les apôtres après la multiplication des pains. Jésus ordonna à ses disciples de monter dans une barque et de passer de l'autre côté vers Bethsaïde pendant qu'il renvoyait la foule. Et quand il les eut congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, seul à terre. Les voyant s'épuiser à ramer car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte !» Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Et ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézaret et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qu'ils avaient reconnus parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où l'on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où ils pénétraient, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher ne fût-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Marc 6, 46, 56.
Lucie, l'espérance peut, comme toute vertu d'ailleurs, déraper en des attitudes qui la pervertissent. On peut pécher contre l'espérance par excès ou par défaut. La tentation pélagienne représente une forme du premier cas. Le dérapage vient ici de ce que l'on espère plus en soi qu'en Dieu. On compte sur ses propres mérites. On se fait fort de l'avenir. Et l'on tombe dans la présomption que son propre salut est acquis, alors qu'Augustin nous dit que la persévérance finale est le grand don de Dieu. Cette présomption est une témérité ou une sécurité trompeuse. À l'inverse, tout homme peut tomber dans le désespoir. Le chrétien aussi peut tomber dans la désespérance. Cette tentation vient plus souvent avec l'âge, quand les conditions de vie deviennent difficiles, quand un sentiment d'abandon et de solitude envahit l'être humain. On désespère de Dieu parce que l'on désespère de soi.
Jésus-Christ nous apprend que ce doit être notre confiance aussi bien par le comportement des apôtres luttant contre les vagues en pleine mer, que par l'attitude des Génésariens présentant au Christ leur malade. L'évangéliste nous dit que tous ceux qui touchaient ne fût-ce que la frange de son manteau étaient sauvés, et cela parce qu'ils touchaient le Christ avec foi et confiance. Telle est la condition pour obtenir la grâce, nous approcher du Christ avec foi, confiant en sa bonté et son amour. Ce que le Seigneur a dit aux apôtres vaut aussi pour nous. Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Au beau milieu des tempêtes qui déferlent dans la vie, il peut arriver que tout, comme cela s'est passé avec les apôtres, nous semble fantomatique, que tout nous fasse peur. Mais si nous savons élever notre regard vers le Christ, nous verrons que c'est lui qui est auprès de nous, et nous aurons le bonheur d'entendre au plus intime de notre cœur le son harmonieux de sa voix qui dit en secret « C'est moi, soyez sans crainte ».
Lucie, est-il légitime d'espérer l'arrivée de biens temporels ? En d'autres termes, espérer ces biens dans l'idée qu'ils vont nous aider à aimer Dieu et notre prochain et nous garder dans cette alliance essentielle de prier pour une guérison, voire pour un miracle, pour un succès universitaire ou professionnel, pour une rencontre importante. Entre-t-elle dans le dessein de Dieu sur moi et sur les autres ?
Bien sûr, mais pour entendre le son de la voix du Christ et la comprendre, il faut que nous n'ayons pas l'esprit bouché comme l'avaient les apôtres qui, pour cette raison, ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Il faut donc que notre esprit soit libre, sans trop d'attachement aux choses de la terre, à la vanité qui conduit à la légèreté, à l'exagération des modes qui donnent un mauvais exemple et scandalisent le prochain, le menant au péché. Si cependant nous suivons nos mauvaises inclinations, la convoitise de ce qui ne nous appartient pas, ni ne peut nous appartenir, les jalousies et les tentations de vengeance contre la justice et contre la charité, etc. Alors ces choses nous rendent aveugles et nous assourdissent de telle façon que nous ne voyons ni n'écoutons ni ne comprenons les paroles de Jésus-Christ. Ainsi s'évanouissent en nous la foi et la confiance.
Lucie, les sociétés postmodernes sont des sociétés inquiètes et désenchantées. Comment y parler de l'espérance aujourd'hui ? D'une part, ces sociétés vivent une mondialisation qui engendre de profondes incertitudes. Les nouvelles technologies et la nouvelle économie, qui est censée en être le meilleur produit, promettent monts et merveilles. Mais d'autre part, tout paraît extraordinairement fragile. À la merci d'un nouveau conflit, peut-être nucléaire ou bactériologique, de l'un ou l'autre accident technologique majeur, d'autres Tchernobyl, d'un crash financier, d'une paralysie des systèmes informatiques, de contrôle de l'énergie ou des fonctionnements économiques et administratifs suite à un acte de malveillance, d'une prise de contrôle grandissante des économies et de la finance mondiale par les mafias, d'un environnement peu à peu totalement dégradé, menaçant la survie de l'humanité. Et de plus, il y a tous ceux qui se sentent écartés de la dynamique sociale et économique, qui ont décroché ou qui ont été exclus, en France et bien plus encore dans des régions ou dans des pays entiers du Sud. La postmodernité est ainsi une modernité inquiète, marquée par la crise de la transmission des savoirs, des valeurs et des arts de vivre, celles des autorités et des identités collectives et personnelles.
L'apôtre Saint Jean, dans le discours d'adieu prononcé par Jésus-Christ lors de la dernière scène, nous transmet quelques passages qui inspirent des sentiments d'espérance. Le maître, venant de laver les pieds des apôtres, s'est assis de nouveau à table et a expliqué le sens de son geste, leur conseillant l'humilité et la charité. Il a prédit ensuite la trahison de Judas, et après que celui-ci fut sorti pour mettre en œuvre ses desseins perfides, le Seigneur a dit à ses disciples « Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Continuant à parler avec familiarité avec les apôtres, le Seigneur dit au sujet de sa mort, « Voici venir l'heure, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. »
Lucie, les modernes alternent, selon une incessante oscillation, entre la présomption sans limite du progrès et le désespoir, mais sans que la croyance au progrès cesse d'être opératoire. Intellectuellement, nous ne croyons plus au progrès. La critique en est faite depuis longtemps, mais opérationnellement, nous sommes contraints d'y croire toujours. La critique du progrès ne peut être opératoire car notre existence concrète repose sur le progrès. La situation est inédite. Il est nouveau que nos sociétés occidentales se trouvent sans messianisme, sans utopie, au premier regard sans idéologie. Pour la première fois depuis longtemps, les gens sont brusquement privés d'idéologie, les chrétiens comme les autres. Tant de dépression, de dépressurisation. Comment peser la situation telle qu'elle nous apparaît, non pas spéculativement, mais dans l'existence quotidienne de jeunes et de moins jeunes? Un jeune homme, une jeune fille sortent des écoles avec un diplôme. Ils cherchent du travail et n'en trouvent pas. S'ouvre alors le cycle complexe de l'auto-justification, de la condamnation de la société ou de l'auto-condamnation. Tant dépourvus d'horizon, non pas intellectuel, mais concret. Dans un tel contexte se commettent beaucoup d'injustices. Les plus malins réussissent. Ceux qui ont une place la tiennent. Rien ni personne ne vous vient en aide. Voici au moins un aspect de notre temps.
Ici, Jésus nous assure que nous avons une place dans le ciel si nous voulons suivre son chemin. Le chemin qu'il nous a tracé par sa parole et ses exemples, le chemin qu'il est lui-même. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Qui m'a vu a vu le Père. » Donc, notre chemin, c'est le Christ. Il l'est par sa parole, par sa doctrine et par sa vie. Nous avons donc besoin de nous identifier au Christ pour reproduire en nous la vie du Christ et voir dans le Christ le Père, selon ses paroles. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. C'est dans cette identification de notre vie à la vie du Christ, victime d'expiation pour nos péchés, que notre confiance se fonde et devient forte, car nous savons que c'est par notre union avec le Christ et par ses mérites que nous serons sauvés, et que nous deviendrons agréables au Père dans la mesure où nous reproduirons en nous les sentiments de son Fils Jésus-Christ, de façon que le Père voit en nous la face de son Verbe. Celui-ci est le chemin que nous devons suivre pour arriver à occuper la place que Jésus a préparée au ciel pour nous.
Répétez après moi. Très Sainte Trinité.
Très Sainte Trinité.
Très Sainte Trinité.
Père.
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 Fils.
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 Et Esprit Saint.
Et Esprit Saint.
Et Esprit Saint.
Je vous aime profondément.
Je vous aime profondément.
Je vous aime profondément.
Je vous offre le très précieux corps.
Je vous offre le très précieux corps.
Je vous offre le très précieux corps.
Sang.
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 Âme.
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 Divinité de Jésus-Christ.
Divinité de Jésus-Christ.
Divinité de Jésus-Christ.
Présent dans tous les tabernacles du monde.
Présent dans tous les tabernacles du monde.
Présent dans tous les tabernacles du monde.
En réparation des outrages.
En réparation des outrages.
Sacrilège.
En réparation des outrages.
Et indifférence par lesquelles il est lui-même. Offensé.
Et indifférence par lesquelles il est lui-même offensé.
Et indifférence et par les mérites infinis.
Il est lui-même offensé.
Et par les mérites infinis. Et par
de son très saint cœur.
De son très saint cœur.
De son très saint
cœur. Et du cœur immaculé de Marie.
Et du cœur immaculé de Marie.
Et du cœur immaculé de Marie.
Je vous demande la conversion.
Je vous demande la conversion.
Je vous demande
de tous les pécheurs.
De tous les pécheurs.
De tous les pécheurs.
Lucie, l'inquiétude qui taraude les individus dans la modernité conduit l'espérance chrétienne à la question de Dieu. Le mot « Dieu » ne fait plus sens, ni dans la société, ni parfois même pour certains chrétiens affectés par la sécularisation. La postmodernité s'apparente à un retour du mythe. L'alternative se trouve entre les divinités du polyéthisme qui viennent anesthésier la responsabilité, compenser le vide de l'existence d'une part, et de l'autre le Dieu biblique qui libère des idoles. Le Dieu de la religion devient le Dieu thérapeute, sollicité pour un mieux-être, mais qui n'engage pas une conversion radicale. Le christianisme s'assoupit dans une vision du monde d'ordre esthétique.
Parmi les grands sentiments de Jésus que nous devons imiter, il y a sa totale dépendance envers le Père et la pleine soumission à sa volonté. C'est pourquoi il peut nous assurer que sa parole est la parole du Père. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Jean 12, 49, 50. Engendré éternellement du Père, le Verbe a tout reçu de lui. Il nous dit précisément que tout ce qu'il nous annonce lui a été dit par le Père et que tout ce qu'il dit, nous transmet, est la parole du Père.
Lucie, les chrétiens sont moins enclins que dans les années 60 à chercher des correspondances entre espérance humaine et espérance chrétienne, à se mettre à la remorque des idéologies du temps. Il demeure impressionnant qu'à l'époque récente, dans notre volonté de modernisation, nous n'ayons pas su faire mieux. Aujourd'hui, le reflux des idéologies laisse la plage nue. Le relief paraît. À marée basse, les fondements, les structures, les fondations de la civilisation sont à découvert. Un doute rampant se fait jour qui ne pouvait s'exprimer si clairement il y a 40 ans. Les dogmes du christianisme sont-ils cohérents? L'incarnation, la Trinité, l'espérance une illusion? Le soupçon d'une possible incohérence, pour ne pas dire d'une millénaire imposture au sein de la civilisation, n'est pas loin. Le soupçon ne vient plus de l'extérieur. Marx, Freud, Nietzsche, il porte sur d'éventuelles contradictions internes que les siècles passés auraient recouvertes, qui se trouveraient désormais à vif.
Il nous faut suivre avec foi la parole de vie éternelle. La suivre avec foi et avec cette humilité de l'enfant qui, sûr de son impuissance, s'abandonne totalement dans les bras de son Père. Il s'y repose et dort tranquillement parce qu'il sait que le Père le tient dans ses bras, qu'il le défend et l'emmène vers un lieu de repos. Et si un jour il offense son Père en transgressant un de ses ordres, comme il connaît le cœur de son Père, il met sa confiance en son amour, court à sa rencontre, avec humilité lui confesse sa faute, en attend le pardon, et avec la même confiance qu'auparavant, il se jette dans ses bras. Auprès de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Il est le Père de la grande famille humaine. Il nous berce tous dans le berceau de sa providence et nous conduit par les chemins de son amour. Si seulement nous ne voulions pas nous écarter de cette voie ni nous arracher de ses bras paternels. Ainsi, notre espérance a-t-elle ses assises en Dieu, en sa parole, en son amour de Père, en sa main salvatrice, comme des fils qui s'abandonnent dans ses bras, sûrs de son infinie miséricorde, nous savons que notre confiance ne sera jamais déçue.
Merci, Lucie. De l'espoir à l'espérance, nous avons parcouru un itinéraire à la fois continu et discontinu. Continu parce que l'espérance ne peut être étrangère à nos espoirs humains et que l'intervention de la foi ne supplante en rien notre condition humaine. L'espérance ne saurait devenir un alibi à notre négligence ou à notre paresse. Nous restons soumis à l'éthique immanente à toute conduite de l'espoir humain. Discontinu parce que la foi et l'espérance chrétienne nous apportent la certitude qu'elles sont fondées en Dieu et attesté par le don du Christ qui est déjà venu et qui reviendra. C'est pourquoi nous devons écouter l'appel de la première épître de Pierre. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte.
Seigneur, faites que l'espérance nous aide également dans notre vie temporelle en nous apportant joie, paix, consolation et force. Elle est particulièrement précieuse dans le temps des afflictions et des épreuves. Nous sommes parfois acculés à prendre des partis désespérés, c'est-à-dire à espérer envers et contre tout. C'est pourquoi donne-nous la conviction qu'il est utile et souvent nécessaire de prier pour être gardé dans l'espérance, tout autant qu'on le fait pour être gardé dans la foi.
Fait que l'espérance chrétienne, l'espérance théologale, exige de nous de vivre le combat de la charité et de la justice dans la cité terrestre, dont la tâche est de préparer la cité céleste. La scène du jugement dernier, Matthieu 25, nous dit tout à ce sujet. Jésus récompense ceux qui l'ont reconnu dans les affamés, les sans-logis, les malades, les prisonniers et tous les autres pauvres. Fait que notre espérance en la cité céleste, bien loin d'être démobilisatrice, devienne un stimulant essentiel pour notre action dans la cité terrestre. Nous croyons en effet que rien n'est perdu de ce que la foi, l'espérance et l'amour nous commandent d'entreprendre. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, aide-nous à réveiller la mémoire de notre baptême et de vivre chaque jour notre baptême comme actuelle réalité dans notre existence.
Seigneur Jésus, au milieu de la culture laïciste qui nie le péché, renforce notre foi pour que nous voyons en toi celui qui nous sauve du mal.
Seigneur Jésus, aide-nous à croire en toi comme en celui qui existe depuis toujours, avant que le monde ait été créé.
Prions le Seigneur en action de grâce pour nous avoir donné un sens définitif à notre vie au milieu d'un monde désorienté par mille idéologies et opinions.
Seigneur Jésus, donne-nous l'audace de t'adorer comme celui en qui repose en plénitude l'Esprit de Dieu face à une civilisation qui marginalise la foi.
Merci, Lucie, de nous avoir laissé tous tes écrits qui nous sont d'un grand secours aujourd'hui.
Le Saint-Père nous demande de revenir sur la prière la plus familière et la plus intime du peuple de Dieu, le « Je vous salue Marie », particulièrement sur la demande « Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». Marie répond toujours à cette invocation. Elle écoute nos demandes, nous bénit avec son Fils dans les bras, nous apporte la tendresse de Dieu fait chair.
Autrement dit, elle apporte de l'espérance dont nous avons besoin comme la terre a besoin de pluie. L'année qui s'ouvre sous le signe de la Mère de Dieu, qui est la nôtre, nous dit que la clé de l'espérance, c'est Marie. Confions à la Mère de Dieu l'âme de Benoît XVI, pour qu'elle l'accompagne dans son passage de ce monde à Dieu. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 février à 10h10. Lucie nous parlera de l'appel à participer à l'Eucharistie. Prions ensemble avant de nous quitter afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs?
Oui, nous le voulons.
Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'appel du message de Fatima avec Bernard et Christine Storm et nous avons parlé aujourd'hui de l'appel à l'espérance. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.